VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est midi à Kinshasa, 11h en temps universel. L'opposition au président Joseph Kabila en République démocratique du Congo a testé ce mardi sa capacité de mobilisation avec une journée ville morte, diversement suivie, première d'une série d'actions pour tenter d'obtenir le départ du chef de l'État. Sans être à l'arrêt total, l'activité tournait au ralenti en matinée dans la capitale où l'opposition avait invité les habitants à rester chez eux pour paralyser les économie. Les deux tiers des commerces étaient fermés, de même que les banques, selon l'agence France-Presse. Et l'insécurité se fait persistante en RDC. Hier, 12 personnes ont été tuées à Kinshasa dans des affrontements entre forces de sécurité et adeptes du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala. La situation demeure également inquiétante dans le Kasaï, le Katanga et le Kivu. La question sur toutes les lèvres dans ce contexte, est-il possible d'organiser des élections avant la fin de l'année, comme le souhaite la commission électorale, la CENCO. Solange Ndiamoulissa a joint Joseph Mabanga. Il est fondateur des Forces acquises au changement, membre du rassemblement de l'opposition.
Le BDK, c'est un mouvement politico-religieux qui date de plusieurs dizaines d'années. Il part, il prend la religion, je crois, des Noirs. Et puis, ils sont intéressés à la politique. Ça a commencé par revendiquer les droits du peuple Congo, parce que tous les régimes qui se sont succédés, que ce soit de Mobutu, que ce soit celui d'aujourd'hui, et donc tous les postes cités dans les entreprises publiques aux ressortissants de l'Est.
Il y a toujours des massacres dans le Kasaï. On signale des affrontements entre les Pygmées et les Bantous dans le Katanga, sans parler de l'insécurité constante dans le Kivu. Est-ce que vous pensez que les élections sont possibles avant la fin de l'année, comme le souhaite la CENCO?
Pas comme le souhaite la CENCO, mais comme le souhaite le peuple congolais. En janvier 2015, le peuple avait manifesté lorsque le pouvoir de Kinshasa voulait modifier la loi électorale pour conditionner les élections à un recensement. Et donc c'est le peuple qui veut les élections parce que le peuple congolais en a marre avec la mauvaise gouvernance, avec le tribalisme, le népotisme, avec le pillage des ressources. Maintenant, est-ce que c'est possible les élections? Oui, c'est possible, parce que il suffit que notre frère Joseph Kabila accepte l'organisation des choses, ça se fera.
Le 8 août, l'opposition appelle à des manifestations. Est-ce que c'est maintenu?
L'opposition n'a pas appelé à manifester. L'opposition a demandé que le peuple reste à la maison pour protester contre la mauvaise volonté et le refus de notre frère Kabila d'organiser les élections. Et donc, c'est maintenu les deux journées ville morte. C'est une expression pacifique parce que nous ne sommes pas encore convaincus qu'il y aura élection. Donc, c'est maintenu. Nous pensons que le peuple congolais va répondre massivement sans casser parce que nous prenons la non-violence. Rester à la maison pour manifester le mécontentement.
Joseph Mabanga, fondateur des Forces acquises au changement, membre du rassemblement de l'opposition en RDC. Des signes avant-coureurs de génocide émergent en Centrafrique où les violences redoublent, a estimé hier un haut responsable de l'ONU en réclamant davantage de militaires et de policiers pour l'opération de paix des Nations Unies dans ce pays. Les signes avant-coureurs de génocide sont là, a déclaré le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Stéphane O'Brien, en rendant compte lors d'une réunion à l'ONU de récents voyages menés en Centrafrique et en République démocratique du Congo.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les Kenyans sont sortis nombreux et dans le calme pour voter aujourd'hui dans le cadre des élections générales âprement disputées et notamment une présidentielle serrée entre le sortant Uhuru Kenyatta et son rival de l'opposition, Raila Odinga, de Kisumu, la grande ville de l'Ouest, à Nakuru, dans la vallée du Rift, en passant par Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes peu après 6 heures, soit 3 heures GMT, des files d'attente d'attente de plusieurs centaines de mètres et les nombreux témoignages d'électeurs ayant passé la nuit devant les bureaux de vote attestaient d'une ferveur démocratique que les accusations de fraude lors des précédentes élections n'ont pas entamé. Quelque 19,6 millions d'électeurs sont appelés jusqu'à 17 heures. 14 heures GMT a départagé Uhuru Kenyatta, fils du premier président du Kenya indépendant, et Raila Odinga, vétéran de la politique kenyane, candidat pour la quatrième et probablement dernière fois à la présidentielle. Le président sud-africain Jacob Zuma joue son avenir ce mardi devant le Parlement où les députés se prononceront, chose rarissime, à bulletin secret sur une motion de défiance. Si la défiance est votée, le chef de l'État au pouvoir depuis 2009 sera contraint de démissionner. La motion qui a été déposée par l'opposition doit recueillir la majorité absolue des voix au Parlement, soit 201 voix. Où le Congrès national africain, ANC ou parti au pouvoir, dispose de 249 sièges pour être adopté. Plusieurs dizaines de députés de la majorité doivent donc voter en faveur de la motion. Des parlementaires pourraient être encouragés à franchir le pas après la décision surprise hier de la présidente du Parlement, Baleka Mbete, d'organiser le vote à bulletin secret comme le réclamait l'opposition et non à main levée comme le veut la tradition. Plusieurs partis d'opposition ont prévu de manifester au Cap ce mardi avant la réunion de la session parlementaire prévue à 14 heures, soit 12 heures GMT. Au Mali, la commune de Diafarabé a reçu une visite plus ordinaire, celle des djihadistes terroristes qui sévissent depuis un certain temps dans le cercle de Ténankou, région de Mopti. Ils ont mis un terme à la célébration d'un mariage avant d'arrêter des femmes qui y étaient. Les terroristes ne veulent plus de célébration de mariage avec face, musique ou autre jouissance populaire. Kassim Traoré nous en dit plus.
Le week-end passé, un notable de Diafarabé célébrait le mariage de sa fille. Aux environs de 17h, une dizaine de djihadistes lourdement armés ont fait éruption dans sa famille, tirant des coups de feu en l'air. Pris de panique, les femmes et les enfants se trouvant sur les lieux ont pris la tangente pour ceux qui n'étaient pas hypnotisés de peur. Les terroristes ont détruit à coups de Kalachnikov tous les matériels qui servaient d'animation et de sonorisation. Ils ont saccagé la cuisine et ont emporté tout ce qu'ils avaient comme nourriture. Les minutes qui ont suivi, les terroristes ont continué à tirer en l'air en obligeant les commerçants qui sont dans les alentours à sortir de leur boutique pour venir écouter leur speech improvisé pour la circonstance. Dans leur intervention, ils ont condamné toute célébration de mariage en pompe, car cela, d'après eux, est contraire à l'islam. Après quelques échanges, les populations de Diafarabé sont parvenues à les supplier de libérer les femmes qu'ils avaient prises en otage. Mais les Kidam ont juré de revenir bientôt pour vérifier que leurs instructions sont respectées et punir les éventuels récalcitrants en appliquant tout simplement la charia. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'ONU a dénoncé un usage excessif de la force au Venezuela et accusé les forces de sécurité d'être responsables de la mort d'au moins 46 manifestants antigouvernementaux depuis le début des manifestations en avril. On constate une tendance évidente à l'usage excessif de la force à l'encontre des manifestants, a déclaré le haut commissaire aux droits de l'homme Zeid Raad al-Hussein dans un communiqué. L'opposant russe d'extrême gauche Sergueï Udaltsov a été libéré aujourd'hui après avoir purgé une peine de 4 ans et demi de prison pour avoir organisé des troubles massifs au moment des manifestations contre Vladimir Poutine à l'hiver 2011-2012. La libération de M. Udaltsov était attendue demain, mercredi, mais il a été libéré avant ce mardi donc. Le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, a salué sur Twitter cette libération tout en dénonçant la condamnation de Sergueï Udaltsov comme politique et fabriquée de toutes pièces. L'armée chinoise procède au large de la péninsule coréenne à des manœuvres navales et aériennes comprenant le tir de dizaines de missiles, a annoncé le ministère de la Défense au moment où Pékin fait pression sur son allié nord-coréen pour l'inciter à renoncer à son programme nucléaire. Ces exercices à grande échelle se déroulent 2 jours après le vote par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution soutenue par la Chine qui impose de nouvelles sanctions à la Corée du Nord pour ses essais de missiles intercontinentaux. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous. Sur VOA.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.